sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. L'émission sur le pont des arts en ce mois de mars 2011 se concentre sur l'actualité du dessin. Mais annonçons d'abord le lancement de plusieurs grands prix de l'Académie des Beaux-Arts au printemps. Une période bien chargée pour l'agenda de l'Académie qui distribue chaque année une quarantaine de prix. Les appels à candidature sont ainsi déclarés ouverts pour le prix de photographie, le grand prix d'architecture, le prix du dessin, le prix du livre d'art. Jeunes artistes, placez-vous dans les starting blocks. Depuis le 21 mars 2011, le concours du Grand Prix d'architecture est ouvert. La clôture des inscriptions aura lieu le 3 mai. Il s'adresse aux artistes de moins de 35 ans, architectes ou étudiantes de France et d'ailleurs. Le thème proposé par le jury cette année est le logement étudiant. La population étudiante en France est en augmentation constante comme dans tous les pays européens et la question du logement étudiant se pose chaque année avec plus d'acuité. Le jury propose cette année aux candidats de réfléchir sur ce thème sans aucun programme préalable imposé. Pour rappel, le concours comporte deux épreuves. La première d'entre elles est à remettre au plus tard le 3 mai 2011 à l'Institut et le rendu de la deuxième épreuve se déroulera plus tard, après l'été, le 14 septembre 2011. Le jury est présidé par Claude Parent. Il est composé des membres et des correspondants de la section d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Pour tout renseignement et inscription, consultez évidemment le site internet de l'Académie des Beaux-Arts, academiedesbeauxarts.fr, où vous pourrez télécharger les bulletins d'inscription. L'appel à candidature pour le prix de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts Marc Ladret de la Charrière est lancé depuis le 23 mars. Il s'adresse à des photographes confirmés, français ou travaillant en France, sans limite d'âge, auteurs d'un projet photographique original. Le prix bénéficie du mécénat exclusif de Marc Ladret de la Charrière, membre de l'Académie. Les dossiers peuvent être envoyés jusqu'au mercredi 15 juin et là encore, consultez le site de l'Académie et le site de fimalac.com pour tout renseignement et inscription. Le 1er mars 2011 s'est déroulé le lancement du prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts qui récompense chaque année l'auteur d'un ouvrage consacré à l'art composé en langue française. Les ouvrages peuvent être adressés à l'Académie jusqu'au 31 mai 2011. Enfin, le prix du dessin, le prix Pierre-David Veil, destiné aux jeunes artistes sans condition de nationalité de moins de 40 ans, est ouvert au concours depuis le 3 mars dernier et parmi les membres du jury, le peintre Velikovic. Le dépôt des œuvres et les inscriptions au concours ont eu lieu le 22 et le 23 mars au Palais de l'Institut, mais annonçons la tenue prochaine de l'exposition des œuvres des lauréats à l'Institut, au pavillon Comtesse de Caen, en face du Pont des Arts, où vous pourrez venir voir ces dessins contemporains du jeudi 7 au samedi 30 avril. Que dire de l'actualité des académiciens en mars ? Vladimir Velikovic, jusqu'au 15 mai, expose des tableaux et dessins récents à la galerie DX à Bordeaux. Lucien Clergue, le photographe, expose à la Maison de la photographie à Moscou du 1er au 31 mars, mais plus près de nous et sur ses terres, Lucien Clergue, à travers 150 photographies pour la plupart inédites, livre sa vision de l'Amérique, de New York à Santa Fe, des nus au désert, des rues de New York au people des années 60, le regard du jeune photographe à l'âge de 27 ans comme celui d'aujourd'hui. C'est au Palais de l'Archevêché à Arles du 31 mars au 1er mai et l'exposition s'intitule « Clergue in America 1961-2010 ». Patrick de Carolis, élu au sein de l'Académie des Beaux-Arts dans la section « Membres libres » en mai 2010, mais qui n'a pas encore été reçu sous la coupole, a écrit un roman historique aux éditions Plomb, La Dame du Palatin, paru le 3 mars 2011. Musique maestro maintenant. tournons-nous vers la section de composition musicale de l'Académie et les compositeurs de l'Académie des Beaux-Arts ont fait l'actualité en mars. Michael Levinas, qui sera reçu prochainement sous la coupole le 15 juin, a vu son opéra joué en création mondiale à l'Opéra de Lille du 7 au 13 mars dernier. Cet opéra a été écrit d'après l'œuvre de Kafka et a été interprété avec l'ensemble Ictus dans une mise en scène de Stanislas Nordet. L'opéra Métamorphose sera d'ailleurs retransmis le 30 mars à 20h sur France Musique. Alors, à vos postes. Vous pouvez retrouver la musique de Michael Levinas chez Universal Music avec le coffret double face Levinas compositeur, Levinas pianiste, une compilation de 11 CD. Edith Canadechisi, oui, chers auditeurs, l'Académie des Beaux-Arts compte dans ses rangs une femme compositeur depuis 2005. D'ailleurs, la première femme compositeur à entrer à l'Institut, Edith Canadechisi, a sorti son CD Times en mars dernier. Le 31 mars, la création mondiale de Pierre Desclerc à l'auditorium Maurice Ravel de Lyon sera jouée par l'Orchestre national de Lyon sous la direction d'Ilan Volkov. L'Académie des Beaux-Arts distribue des prix, se réunit en séance hebdomadaire. Elle soutient les arts par des actions de mécénat et le fait est rare aussi pour être souligné. Récemment, elle a contribué, comme beaucoup d'autres particuliers et institutions, à l'acquisition du tableau des Trois Grâces de Luca Cranac par le musée du Louvre en répondant à l'appel aux dons lancé par ce dernier. Dans l'actualité parisienne des arts, le salon du dessin ancien, moderne, contemporain fête son 20e anniversaire du 30 mars au 4 avril. Créé au départ en 1991 par quelques marchands et collectionneurs, le salon a acquis une renommée internationale incontestable. Rendez-vous des collectionneurs comme des chercheurs, il est devenu au fil du temps une locomotive pour le marché de l'art, car s'y côtoient experts, conservateurs de musées, chercheurs, collectionneurs et galeristes. Sur 4 jours, le salon a accueilli l'an dernier 13 000 visiteurs. Le Palais de la Bourse accueille donc ce 20e salon du dessin, comme chaque année, depuis 2004. 39 galeries exposent, 21 sont françaises et 18 sont étrangères, et parmi les dernières recrues, la galerie new-yorkaise de David Nolan. Les œuvres présentées sont prestigieuses et sur le Pont des Arts à noter parmi le foisonnement de cette 20e édition des dessins de Hans Hartung, d'Eugène Delacroix, de Zhao Wuqi, tous académiciens d'hier et d'aujourd'hui. Le visiteur pourra également admirer des dessins d'Henri Matisse, de Marcel Cromer, d'Ingres, de Degas, de Renoir et d'Andy Warhol. De nombreux musées sont partenaires du Salon du dessin, comme le musée Condé de Chantilly qui présente pour l'occasion une centaine de portraits dessinés de Clouet. Le musée Belmondo, voué à l'œuvre de l'académicien sculpteur, présente le cabinet de dessin du sculpteur à Boulogne-Bignancourt, sans compter quelques trésors de la Bibliothèque nationale de France et la présentation d'un choix de dessin de l'architecte Boulet. Événement dans l'événement, le salon organise les 6e rencontres internationales du dessin, le 30 et le 31 mars, sur place, présenté par Pierre Rosenberg de l'Académie française. Parmi les galeries du Salon du dessin au Palais Brongniart, 4 seulement sont tournées vers le dessin contemporain. C'est pourquoi, quelques jours auparavant, du 25 au 28 mars, le Salon du dessin contemporain, un autre salon, baptisé Drawing Now, présente au Carrousel du Louvre sa 5e édition et lance cette année un prix du dessin contemporain soutenu par Soferim. Alors avis aux artistes. Ce salon du dessin contemporain au Carrousel du Louvre est également en partenariat avec des institutions publiques dans toute la France. Ainsi, des musées, des centres d'art, des instituts s'associent pour promouvoir le dessin contemporain pendant cette période du mois de mars et avril. Retrouvez toutes ces manifestations sur le site internet du Salon du dessin contemporain Drawing Now Paris et votre curiosité, je l'espère, vous poussera à découvrir la jeune création grâce au travail de 82 galeries européennes. Là aussi, un événement dans l'événement. Pour la première fois, Drawing Now Paris présente Drawing Now Numérique, une manifestation qui explore dans toutes les dimensions le dessin contemporain, avec une programmation pointue de dessin numérique. 20 projets seront présentés au public. Retrouvons l'académicien Éric Desmazières, artiste peintre-graveur, pour nous parler du dessin et de ce salon innovant où il expose. Alors direction le Carrousel du Louvre. Éric Desmazières, bonjour.
Bonjour.
Vous exposez dans le cadre du Salon du dessin contemporain Drawing Now Paris, avec un nom très français, n'est-ce pas ?
Comme on dit à l'académie.
Voilà. La galerie Dietesheim expose de vous quelques dessins et on connaît plutôt vos gravures. Cette activité de dessin est chez vous relativement importante, vous nous en aviez déjà parlé, vous nous avez dit l'importance du dessin pour vous. Est-ce que c'est en ce moment une activité qui l'emporte sur la gravure pour vous ou c'est un complément c'est...
Non, ça a toujours été deux choses qui se sont passées. Enfin, je travaille parallèlement le dessin et la gravure, même si j'ai beaucoup plus dessiné étant plus jeune, avant de commencer à faire de la gravure. Mais disons que le dessin est toujours important pour moi, même si en temps, en heure, on va dire, la gravure est un médium peut-être plus lent et il se trouve que les commandes, les dents, etc. J'ai peut-être passé plus de temps à graver qu'à dessiner. Mais il n'empêche que j'ai toujours dessiné, mais je les montre un peu moins dans la mesure où d'abord je fais beaucoup de dessins dans des carnets de dessins que je ne vends pas, qui sont une espèce de journal. Absolument, oui. Donc tout ça est rarement montré.
C'est une pratique quotidienne ?
Non, pas du tout. Non, je suis très très paresseux. Et c'est une pratique très très épisodique, plutôt l'été. Néanmoins, quand même... Je fais des dessins qui ne sont pas dans des carnets et souvent des dessins qui préexistent aux gravures, par exemple des dessins préparatoires aux gravures.
Là, on retrouve d'ailleurs un grand dessin de l'atelier de René Tazé, dont vous avez fait énormément de gravures.
Alors ça n'était pas un dessin préparatoire à une gravure, c'était vraiment un dessin très achevé, qui est même une gouache,
qui tempéra
presque vers la peinture, mais enfin qui est sur papier. Et qui est une œuvre qui n'avait pas donné lieu à une gravure par la suite. Même si ça a été fait à un moment où j'avais fait des gravures de l'atelier Tazé tel qu'il existait à ce moment-là, car il n'existe plus sous cette forme, il a déménagé. L'endroit où ce dessin avait été fait a été démoli. Oui. Bon, alors ça c'est un dessin un peu plus ancien, qui doit dater de 2006.
Voilà. Oui. Mais vous exposez là des œuvres récentes de 2010-2011.
Il se trouve
2011.
Que depuis l'année dernière, suite à une commande des Amis de la Bibliothèque Nationale, j'ai été amené à dessiner dans un lieu qui s'appelle le magasin central des imprimés, qui est l'espace dans lequel étaient stockés les livres dans l'ancienne Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu. Il y avait derrière la salle Labrouste, qui est la grande salle de lecture, un espace pour ranger les livres immense, qui a 12 niveaux, où il y avait 10 millions de volumes. Et donc, les Amis de la Bibliothèque nationale, à l'instigation de la directrice du département des estampes, Sylvie Aubenas, m'a demandé de réaliser des dessins de ce lieu qui est étrange parce qu'il est vide de livres et donc qui est complètement transparent, comme ça, à la fois Jules Verne, Kafka, Piranèse.
Cuirassé,
avec une lumière qui est un peu du jour et beaucoup du néon. Et aussi latéralement de la salle Labrouste elle-même, puisque ça la jouxte. Et donc j'ai réalisé des dessins en assez grand nombre et un certain nombre d'entre eux donneront lieu à des gravures. Et donc dans cette présentation de la galerie Dietesheim au salon du dessin, il y a un dessin qui est issu de ces études.
Un grand dessin en long.
Qui représente un étage de ces magasins qui sont vides depuis le déménagement à Tolbiac.
Mais alors vous étiez seul dans cet espace?
Alors j'étais seul, absolument.
quand
j'étais
vous avez
rangé,
dessiné.
J'avais trouvé une chaise et je me déplaçais dans ces étages et il n'y avait absolument personne, sauf de temps en temps... des pompiers qui passent avec des listings de choses à vérifier, parce que tout ça est très surveillé par les pompiers, même si c'est vide, parce que l'installation est assez ancienne. Et maintenant, d'ailleurs, c'est fermé, on ne peut plus y accéder, et une restauration a commencé qui doit durer plusieurs années.
Et vous avez fait une série de combien de dessins à peu
près ? Oui, j'en ai fait une quinzaine, et puis j'ai également complété un carnet de dessins que j'avais commencé en faisant des dessins de la salle Labrouste elle-même, quelques années avant, une dizaine d'années avant. Et donc, ça donnera lieu à une exposition l'année prochaine à la Bibliothèque nationale. Enfin, tout ce travail autour de Labrouste, de l'architecte Labrouste et de cet espace qui était par définition fermé au public. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Il se trouve que tout ce travail sur les bibliothèques, ça a son origine dans l'illustration que j'avais fait en 1997 d'une nouvelle de Borges qui s'appelle « La bibliothèque de Babel », qui est une bibliothèque absolument imaginaire. Et donc j'avais réalisé plutôt des gravures que des dessins d'ailleurs, pour un livre. Et en fait, le travail sur la Bibliothèque nationale est venu de ça. C'est-à-dire qu'après avoir fait des dessins imaginaires, je me suis dit, mais pourquoi pas quand même se confronter à des lieux, des bibliothèques existantes, notamment celle-là à laquelle j'avais accès, qui est somptueuse. Donc, j'ai fait ce travail sur la Broust. Mais le travail sur cette bibliothèque imaginaire a continué, disons. Et les dessins qui sont exposés à la Galerie Dietersheim à Drawing Now sont la suite des dessins pour la bibliothèque de Babel, on peut dire. D'ailleurs, ils sont même la suite de la dernière planche réalisée.
Qui avait déjà cette forme comme ça.
Comme une coupe, en fait, d'une bibliothèque qui n'aurait pas de fin. Donc, on peut s'amuser à imaginer que ça continue vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, etc. etc.
D'où vient cette fascination pour ces bibliothèques ? Oui, j'allais dire ces tours de Babel.
Je ne peux pas vous dire. En tout cas, en réalisant ces espèces de coupes de bibliothèques imaginaires comme ça, ça me rappelle une chose. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais ça me rappelle une chose qui m'impressionnait beaucoup enfant. C'était ces coupes qu'on voyait, par exemple, de paquebots de la compagnie transatlantique. Il y avait des grands, grands posters, on peut dire, où on voyait le France coupé en deux avec les étages où on rangeait les marchandises, les victuailles, ensuite la troisième classe, la deuxième classe, la première classe. Et tout ça était... Et en fait, il y a peut-être comme ça une espèce de résurgence de fascination enfantine pour ces lieux qui étaient gigantesques d'ailleurs, où il y avait des petits personnages qui se promenaient, qui descendaient des escaliers. Il y avait un cinéma, une piscine, une bibliothèque, des salons, des cabines, etc.
Et là, on retrouve et effectivement.
Il n'est pas impossible qu'il y ait
de ces des petits personnages.
De ces images de l'enfance, puisqu'il paraît que c'est toujours à l'enfance qu'il faut revenir.
Donc là, c'est un travail à la plume.
Oui, c'est des dessins, c'est des lavis, soit sur papier blanc. Il y avait l'exposition, il y en a un qui est un peu plus important, qui est sur papier brun, qui est plus coloré, enfin qui est de la gouache tempéra.
Qu'est-ce que vous avez vu et remarqué dans ce salon-là ? Vous n'avez pas eu le temps
d'y dire. Je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais je suis passé vraiment trop vite. J'ai simplement jeté un coup d'œil à une exposition qui est un peu en marge, qui est une carte blanche donnée, je crois, à un commissaire-priseur qui s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr. Et bon, j'ai trouvé qu'il y avait un choix assez pertinent entre Pennone et ta pièce, Basquiat, enfin bon, un florilège, disons, d'artistes qui ont été
qui ont pignon
des bons,
sur rue.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas vu de nom qui m'était inconnu, mais en revanche, j'ai trouvé que les œuvres étaient de qualité. Mais vraiment, j'ai vu ça trop rapidement pour en parler. Je parle du salon lui-même, trop rapidement
oui,
pour en parler.
Il vient à peine d'ouvrir. Vous avez deux confrères aussi qui exposent dans ce salon. Il y a un pastel de Pierre-Édouard,
qui est sculpteur, mais aussi dessinateur, et qui expose chez Dietersheim, à la Galerie Dietersheim également. Oui.
Comment vous appréciez ce travail sur pastel ?
Ah oui, c'est très beau. Ça me rappelle un peu, c'est drôle, parce qu'une exposition de lui vient de commencer, le travail de Dylan Redon, un peu, qui a été un grand maître du dessin et de la gravure, d'ailleurs, et qui a été un grand maître du noir, on peut dire. Et là, on retrouve comme ça une espèce de profondeur du noir... très mystérieuse, très poétique, oui, c'est un très, très beau travail, oui. Un peu à la frontière en plus de l'abstraction, c'est des formes qu'on devine, en l'occurrence...
Et on retrouve un peu là son Ève.
Oui, alors en l'occurrence, il y a une base figurative, enfin c'est effectivement toujours
noirs,
cette sculpture, ce personnage comme ça, issu de la sculpture, qui émerge de l'obscurité, oui. Comme chez Redon peuvent émerger comme ça de l'obscurité... des formes. D'ailleurs, François Dietersheim, qui est un marchand qui s'est beaucoup intéressé à la gravure à ses débuts, mais qui s'y intéresse toujours, a aimé comme ça des artistes comme Musitsch aussi, qui est comme ça son, ou Bokor, où les formes émergent comme ça, où il y a un dessin un peu, enfin le contraire de ce que je fais, on va dire.
C'est très très différent.
C'est très allusif, très en matière, plus qu'en ligne.
Et c'est complètement différent. Et puis signalons que la galerie Samantha Selem montre des dessins de Velikovitch, des cartons et enfin des dessins sur carton et puis des grandes encres.
Qui est un très bon dessinateur dans le grand format, oui, à l'encre et à la plume.
Ouais. Et là, l'an dernier, elle avait consacré toute sa galerie, une grande exposition à cet artiste. Là, on retrouve six œuvres qui donnent quand même un grand aperçu de Velikovitch, dessinateur. Et ce sont des œuvres grand format.
Alors, Drawing Now est un salon de dessin contemporain. En revanche, la semaine prochaine commence le salon du dessin qui a lieu à la Bourse, qui montre aussi des artistes contemporains, d'ailleurs modernes et contemporains. Et il se trouve que le hasard a fait que j'ai vu une très belle exposition de dessin, enfin je vous le dis parce que je l'ai vue hier, qui est à la Fondation Custodia, toujours, l'Institut néerlandais, qui est une sélection des des dessins de la Kunsthalle de Hambourg et c'est une très très belle exposition. Bon, même ce sont des grands noms. Enfin, il y a un très beau dessin de Bruegel, de Pierre Bruegel, le grand, celui des Tours de Babel, justement. Et aussi, il y a un très beau Rembrandt qui est Saint-Jérôme et le Lion, qui est un des rares dessins de Rembrandt préalable à une gravure. On connaît très très peu d'études dessinées pour ces gravures chez Rembrandt. Ainsi que des très beaux paysages de Goltzius, par exemple, de Van Dyck aussi, de Vroom. Enfin, c'est une très belle exposition, très variée. Oui, que je recommande vivement, parce qu'elle vient de commencer. Alors.
Elle est présentée à l'Institut néerlandais, 121 rue de Lille à Paris. Et c'est du 24 mars au 22 mai.
Et je pense qu'au même date, il présente un artiste contemporain qui s'appelle Frans Pannekoek, qui est un graveur et dessinateur, qui a une œuvre très intéressante.
En même temps.
Qui est un artiste qui vit en Espagne, dans le sud de l'Espagne.
Vous nous en aviez déjà parlé.
Oui, voilà, j'en ai déjà parlé.
Non, mais c'est pas pour vous interrompre.
Depuis, j'ai vu l'exposition. Effectivement, c'est très convaincant, parce que il se trouve que la Fondation Custodia a collectionné ses œuvres depuis très longtemps. Alors, ils ont une collection très, très importante. Alors, ils ont pu faire une sélection sévère. Donc, il y a vraiment...
Ils ont 300, des centaines de
dessins. Et on présente aussi des dessins de lui, essentiellement des paysages, d'ailleurs, du sud de l'Espagne. Et puis, c'est une belle œuvre parce que c'est vraiment moderne, on peut dire. Enfin, il a vraiment sa personnalité, mais ça s'inscrit dans une tradition vraiment du paysage hollandais, comme ça, très observé, plutôt de petite taille, d'ailleurs modeste, mais extrêmement sensible, extrêmement authentique. Enfin, un artiste que je ne connaissais pas, mais qui a une particularité, c'est qu'il fait beaucoup de deltaplanes. Et donc, ça lui permet comme ça d'observer de haut les paysages qu'il dessine ensuite.
Merci Éric Desmazières et à bientôt. Parmi les coups de cœur de l'actualité des arts pour faire le lien entre gravure, dessin et pastel, signalons la magnifique exposition consacrée au Grand Palais à Odilon Redon. Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous en avril.